Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le carnet de région proposé par les radios associatives d'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, avec de nombreux sujets sur l'actualité de votre territoire. Au sommaire, la présidente des éleveurs de l'Hérault réagira sur le plan loup divulgué par l'État il y a quelques jours. Éric Dessaulier, chargé de mission urbanisme et paysage au Parc national des Cévennes, reviendra sur la présence d'élèves architectes dans les Cévennes qui travaillent sur la revitalisation des centres-bourgs de Troyes. Communes. Nous serons également à Agde avec Laurent Millet, les directeurs de l'aménagement du territoire de la communauté d'agglomération, pour nous parler de la Villa Lorenz en cours de restauration. Enfin, pour finir, escale à 7 avec Radio Linguadoc qui était présente pour Arc Nord Méditerranée, un rendez-vous de musiciens du bassin méditerranéen. Bienvenue, c'est votre carnet de région. Il y a quelques jours, en début d'année, l'État a divulgué son nouveau plan loup, un plan qui confirme notamment un plafond d'abattage de 40 loups pour cette année 2018, des mesures qui ne satisfont pas Brigitte Singla. Elle est éleveuse de brebis sur le Cos du Larzac et présidente des éleveurs de l'Hérault. Nous l'écoutons.
Ben oui, un plan loup qui nous laisse un goût amer. Beaucoup de déceptions, la ruralité sacrifiée une fois de plus. On n'a rien compris aux exigences et aux demandes des éleveurs. Parallèlement à ça, on voit la notion de conditionnalité, des indemnisations qui apparaissent avec des mesures de protection à mettre en place de façon obligatoire. Nous, nos préoccupations qui étaient de pouvoir défendre nos élevages, on est toujours en attente parce que les tirs de défense simples qui vont être généralisés, on demande à ce qu'ils soient aussi en lien avec la réactivité que les attaques demandent. Voilà, et puis au-delà de ça aussi, on se dit que l'éleveur est très loin d'être remis au cœur de la montagne comme ça avait été annoncé, et qu'une fois de plus, on n'a rien compris à notre métier, et l'éleveur va devoir subir ce qu'on lui impose, ce qui est totalement inacceptable pour nous.
Avec un plan loup qui prévoit donc de pouvoir abattre 40 loups par an.
Mais disons qu'on savait que la viabilité de l'espèce n'était plus remise en cause, puisqu'il y a une progression de 22% par an. Et on se rend compte que rien n'a changé, puisque finalement on est toujours autour de 40 loups en quota national, avec des priorisations qui devront être faites par le préfet coordonnateur, notamment sur les zones à très forte prédation. Donc évidemment de l'inquiétude pour nos territoires qui sont en front de colonisation et qui n'auront peut-être pas la faculté de pouvoir abattre les loups au-delà de certains quotas. Quoi.
Alors vous parlez au nom des éleveurs, mais paradoxalement, on a l'impression que ce plan loup ne satisfait aucune des deux parties. Ils ont réussi, les autorités, à se mettre tout le monde à dos avec ce plan loup très bancal.
Bien sûr, puisque nous défendons le maintien de notre activité. Nous demandons simplement de pouvoir continuer à travailler de façon sereine, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et de l'autre côté, évidemment, ceux qui sont pro-loup et qui prônent l'ensauvagement des territoires, ils sont déçus parce que pour eux, il faudrait en tuer aucun. Voilà. Donc le débat reste le même. Est-ce qu'on veut une nature avec de la présence humaine, ou est-ce qu'on veut mettre l'activité humaine dehors et par là même les éleveurs, les pousser à arrêter leur activité? Donc c'est pour ça que nos positions ne pourront jamais se rejoindre.
C'était un reportage de Radio Lodev. De futurs architectes en appui à la revitalisation des centres-bourgs de trois communes du parc national des Cévennes. 23 étudiants en seconde année à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, ont été accueillis hier au siège du parc national des Cévennes à Florac-Trois-Rivières. Durant tout un semestre, ils vont travailler sur la revitalisation des centres-bourgs des communes d'Ispagnac, Bar-des-Cévennes et Saint-Martin de Lensuscle. Ceci est un sujet de Radio Bartas.
Pourquoi les étudiants de l'ENSAM étaient aujourd'hui à Florac?
Alors, ils étaient à Florac pour démarrer un semestre de travail.
Éric Dessaulier, chargé de mission urbanisme et paysage au Parc national des Cévennes.
Pour leur école, l'école d'architecture de Montpellier, en partenariat avec le Parc national et la TCC, l'Association territoriale Côte Cévennes. Voilà, pour prendre connaissance du territoire, de ses qualités, de ses atouts, de ses contraintes également.
L'objectif est de proposer des solutions pour la revitalisation des centres-bourgs.
Voilà, des centres-bourgs et des villages en général, parce que Les centres-bourgs, c'est un terme qui des fois peut mal s'adapter, enfin en tout cas tel qu'il est défini et compris aujourd'hui sur notre territoire. Donc oui, il y a trois communes qui sont partantes et nous, ça nous intéresse. Hein, c'est des réflexions, des approches territoriales qui peuvent amener des choses très concrètes par la suite. Dans des communes très souvent peu de moyens.
Quelle est l'implication du parc national dans ce projet de revitalisation des centres-bourgs ?
Alors le parc, il est là en tant qu'assistance technique aux communes adhérentes. Hein. Donc c'est trois communes, bien sûr, adhérentes au parc. Et dans ce cadre-là, elles bénéficient en quelque sorte d'une assistance technique, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et des paysages. Et on est vraiment dans ce cadre-là. On a également un intérêt à ouvrir notre territoire, à lancer des réflexions pour des démarches de qualité ici dans les Cévennes.
Pourquoi Barre des Cévennes s'est-elle portée candidate pour accueillir les étudiants de l'ENSAM ?
Tout simplement, dans un premier temps, c'est l'association territoriale Causse et Cévennes, avec le parc national des Cévennes qui était à l'origine de ce projet.
François Rouvérolle, maire de Barre des Cévennes.
D'autres partenaires comme le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement étaient aussi partie prenante sur ce projet. Voilà, Barre des Cévennes est une commune qui se transforme beaucoup depuis quelques années, et à la fois par obligation réglementaire, à la fois pour accueillir de nouveaux services publics, notamment un cabinet d'infirmiers, un cabinet vétérinaire. Donc il s'agit maintenant de se poser et de réfléchir à plus long terme.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux ?
Nous sommes en réflexion sur l'élaboration d'un site patrimonial remarquable, qui est donc un document d'urbanisme qui nous permet de réfléchir sur du long terme, sur 30 ans. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les habitants, c'est de pouvoir réfléchir sur du long terme, qui nous apporte leur réflexion sur les projets que nous pourrions mettre en place, à la fois sur l'architecture urbaine et sur le paysage.
En quoi c'est important la revitalisation des centres-bourgs pour les communes ?
Tout simplement pour permettre aux personnes qui y vivent de s'y sentir bien, à ceux qui viendraient rejoindre notre territoire de s'y sentir également bien.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les étudiants de seconde année de l'ENSAM sont à Florac pour travailler avec des communes ?
Alors aujourd'hui, on est venu dans une réunion qu'on a appelée l'atelier technicien et partenaire.
Jérôme Lafont, architecte et enseignant à l'ENSAM.
Pour faire travailler 23 étudiants dans 3 communes de Lozère, qui sont Hispaniac, Barre des Cévennes et Saint-Martin-de-Lensuscle, et sur des sujets qui sont assez intéressants et d'actualité, qui sont la revitalisation des centres-bourgs. Voilà. Ces étudiants de deuxième année vont avoir tout un travail de décodage territorial, d'analyse des villages, à l'échelle plutôt à la fois de la Lozère, mais après on va resserrer des Cévennes et ainsi de suite, jusque localement, c'est-à-dire sur le village lui-même. Et puis ils vont faire des propositions architecturales contemporaines dans la revitalisation de ces centres-bourgs-là.
Pourquoi avoir choisi ces 3 communes ?
Alors, on est passé par le biais l'année dernière d'une association qui s'appelle Terre de Vie en Lozère, sur laquelle on avait déjà travaillé sur des communes qui étaient partenaires et qui étaient volontaires pour faire cette expérience-là. Et cette année, on est passé par le Parc National des Cévennes qui nous ont proposé plusieurs communes, 6 ou 7 communes, et dont 3 nous a attiré un peu notre attention sur leur géographie, leur localisation et puis leur complexité surtout. Voilà.
Concrètement, comment vont-ils travailler à partir de documents ? Ils vont aller sur le terrain. Le prochain rendez-vous est prévu le 5 mars. Donc d'ici là, qu'est-ce qui se passe ?
D'ici là, ils vont aller chercher partout où ils peuvent. C'est-à-dire Internet, bibliothèque, revue de presse, à la radio, parce que je sais que, par exemple, il y a tout un corpus d'habitants, de paroles d'habitants sur la radio, sur Barthas. Donc, en fait, il y a, à un moment donné, il faut qu'ils aillent chercher partout pour qu'ils se fassent leur propre idée de manière un peu abstraite, c'est-à-dire sans avoir vraiment connu le village, même avec les échos des maires qu'on avait eu aujourd'hui, ils n'ont pas la totalité du savoir. Donc il faut qu'ils aillent chercher ce savoir-là. Et à partir de jusqu'au 5 mars, justement, ils vont pouvoir délivrer dans une méthodologie bien spécifique leur savoir et faire la synthèse de vers où la stratégie rurale, entre guillemets, pourrait aller, quoi.
L'objectif sera de présenter des projets de construction, de logements, d'espaces publics. Expliquez-nous.
Oui, en fait, l'idée, c'est de travailler beaucoup sur l'hébergement au sens large, c'est-à-dire le logement locatif ou privatif d'acheter, mais on peut être aussi sur les gîtes, mais aussi sur ce qu'on appelle les logements évolutifs, donc sur des stratégies un peu différentes, des logements de demain, comment accueillir sans que les villages restent fermés, en tout cas les portes et les fenêtres fermées, plus de 50% des habitants sont saisonniers, donc c'est une vraie question pour les villages. Et puis ils vont, avec cet hébergement-là, travailler sur soit un espace public, alors c'est soit une place, soit un parc, soit un équipement public, et ce qui est intéressant, c'est ce lien entre tout ça, en fait, qui permet à 8 étudiants dans chaque village faire à la fin 23 propositions dans 3 villages différents.
Le fait que ces communes soient situées dans le parc national des Cévennes, est-ce que cela implique des règles particulières ou pas ?
Ça implique un cadre en fait respectueux de ce qui est établi maintenant depuis 50 ans. Mais il n'empêche que ce cadre peut être à un moment donné déréglé ou fracturé. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a toute une logique qui est faite avec ce cadre réglementaire, mais aussi au patrimoine UNESCO, quoi, c'est pas rien. Ça peut être écrasant comme système de pensée, d'arriver dans un parc déjà avec des règles préétablies. L'idée, c'est de perturber un peu cette vision-là, très établie, pour peut-être faire des propositions contemporaines qui pourraient aller au-delà de la réglementation déjà existante et de montrer de nouveaux modes d'habiter ou de nouveaux modes architecturaux qui pourraient convenir totalement au territoire.
Qui s'intègrent dans le paysage.
Totalement.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est en 1994 que la ville d'Agde a fait le choix d'acquérir la villa Lorenz, située sur la Belle-Île, près de la route de Bessan, un lieu datant de la fin du 19e dont la conception et l'aménagement intérieur sont ambitieux. 2 ans plus tard, le monument est classé monument historique. Cette classification permet de faire entrer ce lieu dans une dynamique de conservation et de restauration. Dans les années 2000, les études préalables et le programme des travaux sont lancés. Une première étape a permis la restauration du salon de musique depuis la fin de l'année 2017. La villa est en cours de restauration. Un projet de 10 millions d'euros dont la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée et le maître d'œuvre Denis Millet, le directeur général de l'aménagement du territoire à la communauté d'agglomération. Il explique la fonction de restauration et le lien avec la ville d'Agde au micro de Radio Pays d'Héro.
Nous, on a une mission de maître d'ouvrage, donc qui consiste à mettre en place tous les éléments de maîtrise d'œuvre pour pouvoir mener à bien la restauration du bâtiment, et en même temps d'être en articulation avec la ville d'Agde, qui elle-même est chargée du projet culturel qui va occuper la villa Lorenz une fois qu'elle sera restaurée. La comité d'agglomération est une compétence qui porte sur un certain nombre d'édifices qui sont jugés d'intérêt communautaire. Le château Lorenz faisait partie de ces joyaux patrimoniaux. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, les restaurations, elles sont étroitement liées aussi aux usages que l'on en fait. Donc, en même temps, il faut qu'on pilote le respect, la valorisation du patrimoine existant, et en même temps de rendre possible un usage qui, lui, est à la charge de la commune et qui donc, en bonne intelligence, on essaie d'articuler les deux qui sont parfois pas si simple que ça à rendre possible. Par exemple, l'accès pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on va ouvrir le bâtiment à tous, et ben, il faut qu'on trouve dans le cadre d'un bâtiment patrimonial une place où à la fois les décors, l'architecture elle-même ne soit pas totalement soit respectée. Les circuits des futurs visiteurs, ben, il faudra qu'on les repense différemment pour qu'on puisse respecter la place d'un ascenseur qui ne peut se mettre qu'à un seul endroit et pas à un autre, même si ça nous aurait simplifié la vie de le mettre ailleurs, et ben, par respect patrimonial, on est obligé de bouger. Donc c'est un travail qui doit être associé étroitement avec celui qui fait le projet culturel, pour que cet usage-là soit facilité. Parce qu'on sait qu'un bâtiment, bah, c'est dans la durée, dans son utilisation qu'il se juge et qu'il s'apprécie. Et il ne faudrait pas que des dysfonctionnements techniques fassent qu'on n'apprécie pas la qualité architecturale elle-même, parce qu'on serait trop obsédé par des problèmes annexes, quoi. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là où on commence la restauration qu'il faut être vraiment le plus à l'écoute de ceux qui vont utiliser le bâtiment par la suite, quoi.
Le lieu ouvrira ses portes au public en 2020. Sur ce site historique seront intégrés des artistes contemporains, une manière habile de toucher plusieurs types de publics, ceux attirés par les monuments historiques et ceux sensibles à l'art contemporain. Ceci était un sujet de Radio Pays d'Hérault.
C'est l'association Marée Montagne qui a lancé le projet Arc Nord Méditerranée. Son objectif, faire se rencontrer des musiciens du pourtour nord de la Méditerranée pour comparer et échanger les pratiques d'instruments traditionnels. Fin février, se sont retrouvés à Sète, Catalans, Mallorcais, Calabrais et Occitans du Languedoc pour une résidence préparatoire à leur intervention durant la manifestation Escale à Sète de la fin mars 2018.
A qui donc a meilleur Francesco?
Sì.
Pino?
Paolo.
Qui tre mondi di Calabria che sono qui per fare la musica calabrese in un ricampamento dell'Arc Nord Méditerranée.
Allora. Moi j'habite en France, en effet, depuis longtemps. Et Paolo e Pino vengono direttamente da Calabria. E il manca ancora un gars qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Rocco. Et voilà, on a croisé ça fait longtemps. Sylvie, Pascal, Mike Mai, Tafanari, l'Escola de Bodega, Mare Montagna. Voilà, on est à la base des copains musiciens qu'on partage la même passion pour la musique et surtout pour un instrument particulier qui nous a réunis, qui c'est la. Ce sont les instruments, les cornamuses, la famille des cornamuses, voilà.
D'autres qui disent donc la bodega.
La bodega. La bodega, la zampogna, nostra. Poi c'è la le cornamuses mallorquines.
Sac de Chemec.
Et les catalans aussi. Oh. Voilà. Mais nous, alors, à la base du projet, il y a un très fort intérêt du groupe. Mare Montagna, qui ont voulu faire ce type d'expérience, qui c'est une expérience unique, je crois, il n'y en a pas d'autre.
Mais quand bien commencer, des copes qu'il y a, à la début, il y a toujours un commencement.
Un commencement, c'est comme je te disais, c'est un lien d'amitié, surtout, c'est à la base de tout, parce qu'on peut être, collègue de travail, mais ce n'est pas pareil quand on est des copains. De très bons copains, des camarades surtout, parce que nous, on est des camarades.
Voilà. Mais est-ce vrai que d'un pays d'annados et d'annados, entre le monde de Mike et Mike, hein, d'un côté de au canton de l'Hérault, là, du côté de Colombières,
si.
Mais le groupe Tafanari,
ça
il y a des scambis qui se font
ça fait ça, exactement, ça fait au moins, il y a six ans, au moins, hein, qui ont fait des échanges entre l'Occitanie et la Calabre. Et encore, on peut remonter même avant, parce qu'ils sont déjà venus ici à faire il y a... Quand vous êtes venus à faire le chemin de Cabras. Tu connais ce festival, le chemin de Cabras?
Où vous êtes venus?
C'est autour de... C'est dans le Tarn.
D'accord.
Dans le Tarn, 2010, voilà. 2010. Voilà. Donc, en tout cas, le lien entre la Calabre et l'Occitanie, c'est même, on peut remonter même bien, bien avant, parce qu'en Calabre, il y avait des communautés occitanes, il y a encore des communautés occitanes, des gens qui sont venus, des Occitans qui ont été internés, voilà. Et, du coup, ce lien entre l'Occitanie et la Calabre, elle a toujours existé, depuis très très longtemps.
C'était votre carnet de région à l'instant. Votre magazine présenté et proposé par les radios associatives de votre région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci aux radios qui ont participé à l'élaboration de ce magazine également. Un magazine que vous pourrez bien sûr écouter de nouveau pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et bonne écoute sur nos ondes de radio associatives.